Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex a augmenté de 21% l'an dernier. Une étude nationale a été rendue publique hier soir. Nous ferons le point.
Les partenaires sociaux ont rendez-vous avec le ministère du Travail. Ils masquent dans les entreprises et de l'organisation du travail recommandée par le gouvernement.
L'allocation de rentrée scolaire est versée aujourd'hui à plus de 3 millions de familles aux revenus modestes. Elle est majorée de 100 euros, un petit plus accordé en pleine crise économique.
Michelle Obama a fait l'éloge de Joe Biden. L'ex-première dame a mis sa population au service du candidat à la Maison-Blanche à l'occasion de la première journée de la Convention démocrate, vous l'entendrez.
Les Espagnols se demandaient où était passé Juan Carlos. L'ex-roi en exil depuis 2 semaines s'est installé dans un palace aux Émirats Arabes Unis, alors qu'à Madrid, il est soupçonné d'être mêlé à une affaire de corruption. Le ministère de l'Intérieur a publié hier l'étude nationale des morts violentes au sein du couple. 146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur conjoint ou leur ex l'an dernier en France. Cela représente en moyenne un mort tous les 2 jours, Ariane Gressel.
173 personnes tuées, cela représente une hausse de 16% par rapport à 2018 si l'on tient compte des deux sexes. L'augmentation des meurtres de femmes, elle, est même de 20% avec 25 morts de plus. Les autorités disent espérer les effets du Grenelle qui s'est tenu à l'automne pour inverser la tendance. L'étude dresse le portrait robot de l'auteur de ces meurtres. Un homme, dans la très grande majorité des cas, 88%. Il est le plus souvent marié, âgé de 30 à 49 ans et ne travaille pas ou plus. Quant au contexte, les 3/4 des meurtres ont été commis dans un domicile, celui du couple, de la victime ou de l'auteur, souvent après une dispute ou parce que le meurtrier refusait une séparation. La présence d'enfants sur les lieux ne semble pas changer la donne. Dans 34 de ces affaires, ils étaient à proximité. Dans 10 d'entre elles, le meurtre s'est même déroulé sous leurs yeux. Les mineurs, dont l'étude nous apprend qu'ils sont 25 à avoir été tués l'an dernier dans le cadre de ces violences entre leurs parents, dont 3 en même temps que leur mère, dans 3 affaires distinctes.
Ariane Gressel, le port du masque obligatoire est envisagé, le télétravail recommandé dans les entreprises par Elisabeth Borne. La ministre du Travail fera ce matin une liste de propositions aux partenaires sociaux pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Depuis plusieurs jours maintenant, l'obligation de porter le masque fait beaucoup réagir sur son utilité, sur son coût, sur la possibilité de s'adapter dans chaque entreprise. Michel Bogas, secrétaire confédéral de Force ouvrière, chargé de l'emploi et des retraites, se demande qui va payer.
Si c'était une obligation, par exemple le port du masque en entreprise, ça devient un équipement individuel de protection, eh bien c'est à la charge de l'entreprise. Après, si c'est pas obligatoire, si c'est qu'une forte recommandation, bien évidemment, reste à savoir après qui paie des masques. Ensuite, le second sujet, c'est une règle nationale, comment on la décline dans les entreprises. On est favorable à ce qu'il y ait une concertation, à tout le moins, voire une négociation avec les représentants de personnel pour savoir à quel endroit de l'entreprise il est obligatoire et à quel endroit il ne le serait pas toujours. Et tout ça, il nous semble que ça doit être discuté dans l'entreprise.
La liste des villes qui imposent le port du masque s'allonge. Cette fois, c'est Cannes qui, par un arrêté municipal, rend obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos et collectifs, publics et privés, dès lors que les mesures de distanciation physique ne peuvent être respectées. Il faut donc le porter, par exemple, dans les halls d'immeubles, les ascenseurs, les couloirs et les salles de réunion pour les entreprises. Il faut donc redoubler de vigilance face à un virus qui réaccélère, martèle Emmanuel Macron. Le président de la République, en déplacement à Bormes-les-Mimosas dans le Var, a prononcé un discours à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire de la libération de la commune en août 44. Il a effectué un rapprochement avec l'esprit ayant conduit à la libération de la France il y a 76 ans. Conséquence de cette crise sanitaire, l'allocation de rentrée scolaire est majorée de 100 euros cette année. Elle sera versée aujourd'hui à 3 millions de familles en France et varie de 470 à 504 euros selon l'âge de l'enfant. Si cette majoration est bienvenue pour les associations de consommateurs, elle reste insuffisante à l'achat de matériel numérique de plus en plus nécessaire à l'école, Pauline Joss.
C'est une fourniture scolaire que le confinement a rendue indispensable. L'ordinateur est devenu pour beaucoup d'élèves un outil pédagogique, au même titre que les cahiers, crayons et classeurs. Seulement, son coût n'est pas le même. Selon la Confédération syndicale des familles, à l'entrée en 6e, il faut par exemple au moins un ordinateur pour 2 enfants. Joanne Joussomme est le secrétaire de cette confédération.
On observe en fait chaque année effectivement que ça impacte lourdement le budget des familles, cette question du numérique. Donc ce qu'on souhaiterait évidemment, c'est que l'allocation de rentrée scolaire intègre mieux la question du numérique. C'est même clairement mentionné dans les listes de fournitures de la part des professeurs.
Et ces listes sont bien différentes selon que l'enfant est en primaire, au collège ou au lycée. Mais l'allocation ne varie que d'une trentaine d'euros entre les plus jeunes et les plus âgés. Une absurdité selon Jamy Belkiri de l'association Famille de France.
Pour les 6-10 ans, c'est même les familles qui nous ont dit qu'ils se servaient que du tiers. Par contre, pour les 11-14 ans et les 15-18 ans, là, malheureusement, le gouvernement ne nous a pas écoutés. Et cette augmentation, elle aurait pu, par exemple, être bon, de 50 euros pour les 6-10 ans, pour les 11-14, de 100 euros, et pour les 15-18, de 150 euros. On aurait fait attention aux listes des familles. Parce que les 15-18 ans, surtout les bacs professionnels, ils ont des frais supplémentaires.
Cette année, 2,6 milliards d'euros ont été débloqués pour cette aide, contre 2 milliards l'an passé.
France Culture 7h06, Margot Delpierre, Michelle Obama appelle les Américains à se rendre aux urnes.
L'ex-première dame a enregistré un message diffusé hier pendant la première soirée de la convention démocrate qui se tient entièrement en ligne à cause de la pandémie. La très populaire Michelle Obama a tenté de convaincre jeunes et moins jeunes de se mobiliser pour faire élire Joe Biden président des États-Unis et faire sortir Donald Trump de la Maison-Blanche.
Laissez-moi être aussi honnête et clair que possible. Donald Trump n'est pas le président qu'il faut à ce pays. Il a disposé de suffisamment de temps pour prouver qu'il était capable d'occuper cette fonction, mais clairement elle le dépasse, il n'est pas à la hauteur. Tout simplement, il n'arrive pas à être celui dont nous avons besoin en ce moment. C'est ainsi. Donc si vous ne devez retenir qu'une seule chose de mes mots ce soir, c'est ceci. Si vous croyez qu'on ne peut pas tomber plus bas, eh bien croyez-moi, la situation peut encore empirer et c'est ce qui se passera si pour cette élection, on ne choisit pas le changement. Si nous voulons mettre un terme à ce chaos, nous devons voter pour Joe Biden comme si nos vies en dépendaient.
Michelle Obama, lors de la première soirée de la convention démocrate hier, elle se terminera jeudi. L'élection présidentielle, elle, aura lieu le 3 novembre. L'autoritaire Alexandre Loukachenko va-t-il céder ? Les manifestants réclament depuis près de 10 jours le départ du président biélorusse, réélu à la tête du pays le 9 août dernier avec 80% des voix. « Jamais je ne ferai quoi que ce soit sous pression », a-t-il déclaré, puis il a nuancé en se disant prêt à organiser une nouvelle élection après l'adoption d'une nouvelle constitution. Les manifestations en Biélorussie se sont doublées d'un mouvement de grève dans plusieurs usines, notamment risquant de paralyser des sources de revenus majeures pour le pays. Après 2 semaines de secret, la Maison royale d'Espagne a révélé où se trouvait l'ex-roi qui s'est exilé début août. Juan Carlos, 82 ans, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption, s'est installé aux Émirats arabes unis. Il dort dans un palace à 12 000 euros la nuit, ce qui n'arrange pas son image, Mathieu de Taillac.
Les vues sur les plages du golfe Persique, sable blanc et eau turquoise sont imprenables. L'architecture est à situer quelque part entre les palais des mille et une nuits et les hôtels à thème de Las Vegas. Les piscines immenses sont entrecoupées d'îlots à la végétation luxuriante et de toboggans dont on doute qu'ils soient recommandés à l'illustre hôte à la hanche royale accidentée. Les salons brillent de mille feux, ceux de lustres énormes qui illuminent des canapés modernes aux couleurs crème. Les options d'hébergement s'échelonnent de la presque abordable chambre à 300 euros jusqu'à la suite dite présidentielle, l'ironie est involontaire, à 12 000 euros la nuit. Question discrétion et sécurité, l'hôtel est une propriété de l'État sur un territoire à Abu Dhabi qui ne s'embarrasse pas beaucoup de la liberté de la presse quand il s'agit de protéger ses hôtes des paparazzi. Une destination parfaite pour une retraite dorée, mais aussi la plus mauvaise idée qui soit si Juan Carlos voulait faire oublier le scandale de supposées commissions versées par les voisins saoudiens. C'est visiblement le cadet de ses soucis.
La correspondance en Espagne de Mathieu de Taillac. Le ministre canadien des Finances démissionne. Un départ sur fond de tension à cause de la gestion de la pandémie et d'un scandale éthique qui vise également le Premier ministre Justin Trudeau. Les médias faisaient état de profondes divergences entre les deux hommes. Ilan Malka en parlera plus longuement dans sa revue de presse internationale juste après les infos de 7h30. En France, le temps s'améliore légèrement, même s'il faut encore s'attendre à des averses aujourd'hui sur une large moitié nord de la France et des orages dans le Grand Est. Cet après-midi, vous n'aurez pas plus de 21 degrés à Cherbourg, 23 à Lille, 25 à Paris et Bordeaux, 28 degrés à Lyon et Nice et 30 à Marseille, Chloé.
Merci Margot Delpierre, il est 7h10.